L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Sébastien Périmoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Avec lui, nous allons discuter du projet nucléaire civil égyptien lancé en coopération avec la Fédération de Russie et de son impact sur le développement du pays. Nous aborderons également ce que la Russie, ainsi que la Chine, l'Inde et l'Iran, dans le cadre des BRICS Plus, pourraient apporter à toutes les nations africaines désireuses d'acquérir la technologie nucléaire civile. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 23 janvier, le géant nucléaire russe Rosatom a procédé au coulage de béton du quatrième réacteur de la centrale nucléaire d'Al-Dabaa en Égypte. Le président Abdel Fattah Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont suivi l'événement en temps réel par visioconférence. Ce projet occupe une place centrale dans le partenariat stratégique entre les deux pays. La construction de la centrale d'Al-Dabaa est le fruit d'un accord signé en 2015 avec le géant russe Rosatom. Elle est située à 350 km du Caire sur le littoral nord-ouest du pays. La centrale comprend 4 réacteurs d'une puissance de 1,2 gigawatts chacun, soit une capacité totale annuelle de 4,8 gigawatts, soit 50% de la production électrique du pays. Il est prévu que la société Rosatom fournisse le combustible nucléaire et assure la formation de l'équipe et la maintenance de la station durant les 10 années suivant le lancement des réacteurs. La construction des deux premiers réacteurs a débuté en 2022, alors que celle du troisième en mai dernier. D'ici 2030, l'Égypte prévoit que la centrale nucléaire soit entièrement opérationnelle. Le coût de sa construction s'élève à 30 milliards de dollars, dont 85% sont financés par un prêt russe. Le président Sisi a souligné que la crise énergétique mondiale confirme l'importance de la décision stratégique égyptienne de relancer le programme nucléaire pacifique.
Cela contribue à la sécurité à long terme en matière d'approvisionnement en électricité et cela permet d'éviter les fluctuations dues au marché et nous avons ici un équilibre énergétique qui est important pour l'Égypte, qui est essentiel et qui est vital pour satisfaire les besoins de notre économie. L'Égypte a besoin ici, sur le plan social comme sur le plan économique, de ce développement avec la contribution, l'implication de partenaires dans tous les plans face aux problèmes que se pose l'évolution des changements climatiques.
Pour sa part, le président russe a indiqué que la centrale nucléaire d'Al-Dabaa représente le projet le plus important entre l'Égypte et la Russie.
C'est une nouvelle étape dans la construction de cette centrale nucléaire qui est essentielle pour les relations entre la Russie et l'Égypte et dont la mise en œuvre signifie une contribution importante dans le développement économique de l'Égypte et le développement de sa base énergétique. Nous contribuerons autant que possible à renforcer cette production, à la formation de spécialistes, à la création d'emplois. Et c'est un travail que nous allons faire ensemble dans la mesure où ce système justement énergétique permet de travailler ensemble dans les meilleures traditions de notre coopération historique. Je rappelle que dans la deuxième moitié du siècle dernier, les spécialistes soviétiques avaient participé très activement au développement économique et à l'amélioration des capacités de défense de la République arabe d'Égypte. Ils ont participé à la construction de sites industriels et énergétiques comme le barrage d'Assouan. Et dans ces efforts communs, ont été posées des bases importantes qui continuent de fonctionner et qui ont toujours une utilité pour le peuple égyptien. Cette coopération multilatérale entre nos deux pays se poursuit de façon régulière et se développe. L'Égypte est effectivement un ami proche et un partenaire stratégique. Nous travaillons ensemble selon le principe d'égalité dans la prise en compte des intérêts mutuels et en pleine coopération avec l'esprit et la lettre de nos traités de coopération et d'amitié qui ont été signés en 2012 entre M. Al-Sisi et moi-même à Sotchi. Notre coopération se développe de façon toujours aussi positive et aussi dans le cadre des BRICS. Dès le début, la Russie avait soutenu la candidature de l'Égypte à devenir membre à part entière de cette union des BRICS. Et cette année, dans le cadre de notre présidence, nous ferons tout ce qui est possible pour que l'Égypte, concrètement, nous rejoigne. Nous avons plus de 200 réunions et manifestations organisées entre nos deux pays. Et nos spécialistes participeront de la façon la plus active. Et bien entendu, nous vous attendons, cher monsieur Al-Sisi, à la grande réunion des BRICS à Kazan en octobre prochain.
Outre l'Égypte, d'autres pays africains ont signé ces dernières années des accords de coopération, dont le nucléaire civil avec la Russie, dont le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso. Le 2 décembre 2023, le Ghana signe un appel avec une vingtaine d'autres pays au triplement de la capacité nucléaire installée dans le monde d'ici 2050. Outre les autres systèmes de production d'énergie dont dispose l'Égypte, quelle est la mesure de l'apport de l'électronucléaire à l'économie égyptienne? Au-delà de la production électrique, le nucléaire civil peut-il être une locomotive de développement pour le reste de l'économie égyptienne, notamment dans les secteurs de la science et des hautes technologies spatiales? Que dire à certains médias occidentaux qui voient d'un mauvais œil cette coopération avec la Russie et plus tard avec les BRICS, notamment la Chine, l'Inde et l'Iran? Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité énergétique et les développements en Égypte et en Afrique en général, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Sébastien Périmoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Sébastien Périmoni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder encore une fois cet entretien.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en France, en Russie et bien sûr en Afrique.
Merci beaucoup. Alors, ma première question, elle a un petit caractère historique. En réalité, le projet nucléaire d'Al-Dhabha fait partie du programme nucléaire égyptien qui a été lancé pour la première fois en 1954 par le président Gamal Abdel Nasser. Le site d'Al-Dhabha a été choisi en 1983. Quant à la décision de la construction, elle a été annoncée en octobre 2007. Le développement a été interrompu en raison de la révolution de 2011, dite du printemps arabe. Puis, la première étape de l'étude technique préliminaire a été réalisée en 2016 avec Rosatom, tandis que les relevés hydrographiques et hydrologiques ont été effectués en 2017. Et ce n'est qu'en 2019 que le site a été définitivement approuvé par l'autorité égyptienne de réglementation nucléaire et radiologique, tandis que le permis de construction de la première unité de la centrale a été délivré en juin 2022. Alors, Sébastien Périmoni, vu toutes ces dates-là, il s'est passé près de 70 ans entre l'année de lancement du projet nucléaire civil égyptien et celle du début de construction de la première centrale électronucléaire avec l'aide de la Russie. Alors, comment expliquez-vous cette situation, qui est en réalité la même dans plusieurs pays africains? Que signifie le lancement de ce projet pour l'Égypte, aussi bien sur les plans énergétiques, économiques et technologiques que scientifiques et culturels?
Oui, donc évidemment, il faut revenir sur l'histoire. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2020, il y a maintenant 4 ans, dont un des chapitres disait que l'avenir de l'Afrique passera par le développement de l'énergie nucléaire. Mais en effet, c'est une longue histoire et il faut retracer justement cette construction de la centrale nucléaire égyptienne dans toute cette histoire qui date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la guerre froide, bien sûr, et il y a eu la mise en place d'un système impérialiste, néolibéral, néocapitaliste, qui a justement mené une politique impérialiste de non-développement dans l'ensemble de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons un changement de paradigme. Vous l'avez mentionné, avec déjà les BRICS Plus aujourd'hui, la route de la soie, et la coopération sino-africaine, russo-africaine, qui se développe depuis maintenant quelques années à une vitesse extrêmement accélérée. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la construction de cette centrale nucléaire en Égypte est le reflet et le symbole justement de la fin justement de ce système impérialiste occidental qui avait maintenu une politique de non-développement dans les pays d'Afrique. Et c'est très intéressant si on fait une comparaison. Par exemple, pour l'énergie nucléaire, vous savez, la superficie de la France, c'est 650 000 km². La superficie de l'Afrique, c'est 30 millions de km². C'est-à-dire que c'est 50 fois plus grand. Et si on fait simplement une projection nucléaire, en France, nous avons 56 centrales. Ça veut dire que l'Afrique, aujourd'hui, a besoin de 2600 centrales nucléaires si elle veut atteindre le niveau de développement de l'énergie nucléaire en France. Donc voilà, et ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui qui est mis en place par ce projet symbolique entre l'Égypte et la Russie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui 48 pays d'Afrique subsaharienne produisent autant d'énergie qu'un pays en Europe, à savoir l'Espagne. C'est-à-dire qu'un Africain sur deux n'a pas accès à l'électricité. On peut mentionner les cas les plus connus. Le Niger n'a même pas 13% de la population n'a pas accès à l'électricité, alors que la France y a pris de l'uranium depuis maintenant 60 ans. 9% de la population au Tchad a simplement accès à l'électricité, 14% en République centrafricaine, 20% au Burkina Faso, pareil au Mali. Donc on voit que ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui se sont révoltés ces derniers temps contre cet impérialisme, cette politique de non-développement, aujourd'hui également sont engagés dans cette politique de développement du nucléaire, avec le cas le plus explicite, qui est le Burkina Faso, qui a demandé lors du sommet Russie-Afrique, où j'ai eu la chance de participer, justement, le développement du nucléaire civil. Et ça, c'est très intéressant, sur l'Égypte en particulier. En effet, ce projet remonte à très longtemps, mais la politique, la géopolitique n'avait pas permis, en fait, de lancer ce projet. Or, depuis 2015, la Russie est revenue sur la scène internationale avec cette politique de coopération et de développement avec les pays d'Afrique. J'aimerais revenir d'abord sur 2019, où vous avez eu le premier sommet de Sotchi, le sommet Russie-Afrique,
oui,
et où avait été rédigé un document, Russie-Afrique Vision Commune 2030, où justement déjà étaient développées ces conceptions de coopération dans le domaine nucléaire, et où l'Égypte, justement, était présente et est devenue un petit peu le symbole de cette coopération.
Je rappelle que lors de ce sommet justement de 2019, le président Poutine avait dit que la Russie était disponible et disposée à donner toutes les technologies, pas uniquement le nucléaire, mais toutes les technologies dont voudraient les pays africains.
Moi, je renverrai les lecteurs, si vous voulez, les auditeurs, au discours de Vladimir Poutine qu'il avait prononcé le 9 juillet 2019 au deuxième sommet mondial sur la production et l'industrialisation à Ekaterinbourg en Russie. C'est un discours très important dans lequel justement il avait retracé l'histoire de ce combat pour le développement des pays du Sud en attaquant publiquement la politique malthusienne, si vous voulez, de l'Occident. Malthusienne dans le sens où l'Occident considère qu'il y a l'Afrique est surpeuplée, alors que l'Afrique n'est pas surpeuplée, elle est sous-développée. Il considère que l'Afrique est pauvre et endettée, alors que l'Afrique n'est ni pauvre ni endettée, elle est tout simplement pillée.
Au lieu d'une conversation de fond sur l'agenda climatique et économique mondial, nous voyons souvent malheureusement, du populisme flagrant, de la spéculation et parfois, je pèse mes mots, de l'obscurantisme. On en vient à exhorter le monde à abandonner le progrès, ce qui, au mieux, permettra de mettre la situation en veilleuse, de créer une prospérité locale pour quelques privilégiés, tandis que des centaines de millions de personnes sur la planète devront s'accommoder de ce qu'elles ont actuellement, ou, pour être plus honnête, de ce qu'elles n'ont pas, l'accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'éducation et à d'autres fruits de la civilisation. Un tel archaïsme, bien sûr, ne mène nulle part. Il ne mène qu'à des conflits. L'absolutisation, la foi aveugle dans des solutions simples, spectaculaires, mais inefficaces, conduit à un problème. J'entends par là un rejet total de l'énergie nucléaire ou des hydrocarbures, par exemple. Le recours exclusif aux sources d'énergie alternatives existantes. J'en suis convaincu, pour fournir de l'air, de l'eau et de la nourriture propre, et donc une nouvelle qualité et une nouvelle espérance de vie à des milliards de personnes sur notre planète, nous devons proposer des technologies et des dispositifs techniques fondamentalement nouveaux, moins gourmands en ressources, mais beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ces solutions de production scientifique à haute efficacité permettront d'établir un équilibre entre la biosphère et la technosphère, de réduire et de contrôler efficacement l'impact anthropogénique sur la nature. Les technologies dites proches de la nature, qui reproduisent les processus et systèmes naturels et fonctionnent conformément aux lois de la nature, en font partie. Un exemple de technologie proche de la nature est, même si cela peut paraître étrange, l'énergie thermonucléaire, qui est en fait la production de chaleur et de lumière dans les profondeurs de notre étoile, dans les profondeurs du Soleil. Nous pourrions potentiellement disposer d'une source d'énergie colossale, inépuisable et sûre. Mais tant dans le cas de l'énergie thermonucléaire que dans la résolution d'autres problèmes fondamentaux, nous ne réussirons que si nous établissons une large coopération internationale, une interaction des États, des entreprises, si nous unissons des scientifiques représentant une grande variété d'écoles et d'orientations scientifiques. Si le développement technologique devient réellement mondial, il ne sera pas fragmenté et freiné par des tentatives de monopoliser le progrès, de limiter l'accès à l'éducation, de mettre des barrières au libre-échange de connaissances et d'idées.
Et Poutine avait fait un discours pour attaquer cette doctrine malthusienne, justement, de l'Occident, et avait développé cette politique d'équilibre entre ce qu'il avait appelé la biosphère et la technosphère, en justement parlant de l'énergie nucléaire, aujourd'hui de fission et demain de fusion. Et il avait fait tout un propos sur le développement de l'énergie de fusion pour le futur. Et c'est à ce moment-là que justement la coopération nucléaire entre la Russie et les pays d'Afrique s'est développée.
D'accord. Alors, mais pour l'Égypte, donc c'est un pays qui est un très grand pays, mais malheureusement, la plus grande partie du territoire, c'est un désert. Les 100 millions d'Égyptiens environ sont agglutinés uniquement dans un espace extrêmement réduit sur le long du fleuve Nil, où ils peuvent donc développer un peu d'agriculture. Et tout. Alors, pour l'Égypte, que signifie justement le développement de cette centrale de 5 gigawatts qui va fournir environ 50% de la production électrique du pays?
Oui, oui. Ben, l'Égypte est un de ces pays avec l'Éthiopie, avec le Nigeria, le Ghana et d'autres qui ont décidé justement de sortir de cet impérialisme économique et de lancer une politique d'industrialisation. L'Égypte est à mon avis le plus important. Vous savez, il y a eu le doublement du canal de Suez qui a permis d'apporter énormément d'emplois, de développement, de richesses pour le pays. Vous avez tout un ensemble de projets, la création de nouvelles villes par exemple. Vous avez aussi des projets culturels avec le musée de la civilisation égyptienne. Vous avez également un projet que nous défendons aussi à l'Institut Schiller. Nous avons fait plusieurs conférences sur le sujet. Le projet du doublement du Nil, vous savez, le projet de Toshka, qui permettrait de répartir la population, non plus simplement autour de 5% du territoire autour du Nil, mais justement de reverdir les déserts et de doubler le Nil, pour justement développer à nouveau des nouvelles villes. Et pour ça, évidemment, la priorité, c'est l'énergie. Mmh. C'est l'énergie, parce qu'on ne peut pas développer ces projets sans énergie. Donc, comme vous l'avez mentionné, 50% en plus d'énergie, avec ça, on va pouvoir industrialiser le pays et réaliser ces projets. Et je dirais, il y a une autre chose qui est très importante également dans ce projet, c'est que ce n'est pas simplement la Russie qui vient construire une centrale et elle s'en va. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de formations. Il y a une école qui a été créée, l'école supérieure en technologie nucléaire, hein, qui a été développée. Et quand cette école a été créée, il y a eu plus de 1600 candidatures. Hein, c'est-à-dire que il y avait un enthousiasme très important des jeunes, en particulier égyptiens, pour travailler dans le domaine nucléaire et permettre le développement de leur pays. Donc il y a un vrai enthousiasme autour de ces projets de développement industriel qui est une révolution.
Bien. Alors, dans justement le même élan que vous avez développé actuel dans la première question, notamment quant au discours du président Poutine à Yekaterinbourg, alors la Russie financera environ 85% du coût de construction du projet nucléaire d'Aldaba, qui s'élève à 30 milliards de dollars. Donc, elle fournira un prêt de 25 milliards de dollars en vertu d'un accord de financement signé entre le ministère des Finances de l'Égypte et celui de la Fédération de Russie. Alors, le prêt est remboursable sur une durée de 22 ans à taux d'intérêt de 3% par an. Et les 15% restants seront collectés par l'Égypte auprès d'investissements privés. Alors, Sébastien Perrémoni, au-delà de l'aspect scientifique, technologique et industriel du projet, c'est la Russie qui apporte également 85% du financement nécessaire sous forme de prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça a été déterminant, peut-être, dans le processus de prise de décision par les autorités égyptiennes pour aller dans cette direction de développer le nucléaire ? Beaucoup de pays aussi africains seraient intéressés par ce protocole de coopération avec la Russie dans le domaine nucléaire.
Oui, aujourd'hui, il y a plus de 12 pays africains qui ont signé des mémorandums de coopération, des partenariats avec la Russie, et en particulier Rosatom, justement, pour le développement du nucléaire civil en Afrique. Évidemment, parce que la Russie propose, justement, Rosatom propose une offre globale, ce qu'on appelle financement, construction, exploitation des installations, qui est une sorte de package complet pour permettre à des pays d'accéder à l'énergie nucléaire civile. Et j'insiste encore sur la formation, c'est-à-dire que il y a l'aspect fournir la centrale, mais aussi préparer les jeunes générations à pouvoir gérer ces centrales par eux-mêmes. Donc ça, c'est un facteur très important. Après, bon, vous le savez, moi, je suis un défenseur d'un système de banque nationale dans chacun des pays, où chaque pays peut avoir la possibilité de faire du crédit à long terme et à faible taux d'intérêt pour son industrialisation. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Mais dans le cas présent, le fait que la Russie propose justement ces crédits à long terme à faible taux d'intérêt, c'est extrêmement intéressant pour les pays qui n'ont pas encore forcément les moyens de sortir autant d'argent d'un coup. Et puis il faut voir que pour beaucoup de monde en Occident, on dit voilà, c'est des projets pharaoniques. Bon, les pharaons sont en Égypte, c'est des projets pharaoniques, c'est des projets qui 25 milliards, vous imaginez, pour un pays d'Afrique. Or, la durée de vie d'une centrale nucléaire, comme vous le savez, c'est entre 50 et 80 ans.
Absolument.
Là, elle sera largement remboursée et ça va rapporter, si vous voulez, beaucoup plus d'argent, si vous voulez, que ce que ça a coûté à la base, si on pense justement sur cette durée de vie de 40 à 80 ans. Et c'est ce retour de la pensée à long terme aujourd'hui qui permet justement de développer ces nouveaux projets sur le continent africain.
D'accord. Alors, l'Égypte a signé, comme vous l'avez souligné, avec la société d'État russe Rosatom pour financer, construire et exploiter la centrale nucléaire. Et le contrat prévoit également la fourniture du combustible nucléaire pendant toute la durée de vie de la centrale et une assistance pour son entretien pendant les 10 premières années d'exploitation. Donc, Rosatom construira également des conteneurs pour stocker le combustible usé, tout en mettant la centrale d'Al-Dhabha sous le contrôle de l'autorité des centrales nucléaires d'Égypte qui en assurera l'exploitation. Alors, c'est très important, notamment c'est un discours qui résonne beaucoup chez les Africains. Rosatom, qui propose donc un package, comme vous l'avez dit, complet et dans une démarche de transfert de technologie et de savoir-faire complet dans un secteur ultra sensible, ce que ne font pas les autres pays constructeurs de centrales nucléaires. Alors, comment analysez-vous cet aspect confirmé encore une fois par la Russie qui a déjà aidé d'autres pays dans cette voie, à l'instar de l'Iran?
Encore une fois, on voit que c'est ce type de nouveau partenariat gagnant-gagnant, comme on dit, qui a été initié d'abord par la Chine avec l'initiative Une ceinture, une route. Maintenant, la Russie a relancé justement sa coopération depuis 2019, renforcé sa coopération avec l'Afrique et se base sur ce modèle de développement gagnant-gagnant. Et en effet, l'aspect transfert de technologie est très important. Je rappelle à nos auditeurs, si vous voulez, que si on prend les pays, les anciennes colonies de France, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest, bon, non seulement il n'y a aucune centrale nucléaire, non seulement il n'y a aucune ligne de chemin de fer à grande vitesse, il n'y a toujours pas accès à l'eau, c'est-à-dire que on a eu une politique, si vous voulez, de non-développement qui a été mise en place. Aujourd'hui, avec ce changement de paradigme, avec l'émergence des BRICS, on a cette politique de développement mutuel, ce qui d'ailleurs crée un contexte géopolitique extrêmement complexe, puisque l'Occident, qui est en perte de vitesse, voit aujourd'hui la Russie et la Chine lancer des partenariats tous azimuts avec l'Afrique sur des vrais projets concrets qui permettent vraiment à l'Afrique de s'industrialiser. Donc ça pose un problème parce que l'Occident n'est pas d'accord et décide de s'y opposer. Et prenons par exemple le cas du Rwanda, dans lequel aussi Rosatom a signé un partenariat. Oui. Il y a également la construction d'un centre pour la technologie nucléaire, justement, qui a été développé pour la formation des jeunes, pour qu'ils puissent justement ensuite gérer ça. Donc ça, c'est quand même l'aspect nouveau de cette coopération.
D'accord. Alors, lors d'une déclaration à la presse, l'ancien chef de l'autorité égyptienne des centrales nucléaires, Ali Abdelnaby, a affirmé que la centrale nucléaire d'Al-Zaba donnera un énorme coup de pouce au développement économique et technologique de l'Égypte. Alors, je le cite, il dit « Cette industrie sera introduite dans les usines égyptiennes, ce qui contribuera à élever le niveau des industries pour arriver au niveau de la mondialité et par conséquent augmenter les opportunités d'exportation et le revenu national en devise forte et va accroître les opportunités de travail. Environ 50 000 emplois directs et indirects seront créés autour de cette centrale nucléaire. Ainsi, la possession de la technologie nucléaire contribuera à la réalisation des objectifs du plan de développement durable de l'Égypte 2030 et placera l'Égypte au rang des États développés, ajoute-t-il. Alors, Sébastien Perrimoni, de quelle façon va se décliner cette contribution dans tous les domaines, notamment scientifiques, technologiques et industriels? Et puis, quid du domaine spatial et agricole avec les grandes capacités de dessalement de l'eau de mer qu'offre le nucléaire?
D'abord, un point peut-être un peu plus scientifique. Il faut savoir pourquoi le choix de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui a un flux de densité énergétique extrêmement important. Ça veut dire qu'avec très peu de matières premières, on peut produire énormément d'énergie. Ce qui n'est pas le cas du solaire, il faut du soleil. Ce qui n'est pas le cas de l'éolien, il faut du vent. Ce qui n'est pas le cas de l'hydroélectrique, il faut de l'eau. Alors qu'avec le nucléaire, on a non seulement une densité de flux d'énergie extrêmement importante, c'est-à-dire avec peu de matières premières, on peut produire beaucoup d'énergie. Et deuxième point, si vous voulez, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans énergie, il n'y a pas de développement. Hein. Donc c'est la question fondamentale. Et sur la question de l'espace, du spatial que vous avez mentionné, c'est très intéressant parce que encore une fois, l'Égypte, si vous voulez, est pionnière dans ce développement. Rappelez-vous qu'il y a eu un grand sommet sur le spatial il y a 2 ans en Égypte, justement organisé avec la Chine, hein, cette fois-ci, l'Agence spatiale égyptienne et l'Agence spatiale de Chine, où ils ont mis un grand programme de développement autour des technologies du spatial pour l'envoi de nanosatellites et qui seront utilisés pour l'agriculture, pour la surveillance, pour la climatologie, enfin, qui va être utilisé dans de nombreux domaines, en fait. Hein. Mmh. Donc, le spatial et le nucléaire sont aujourd'hui les deux piliers sur lesquels se développe un grand nombre de pays d'Afrique. Alors, des fois avec la Russie, des fois avec la Chine, des fois avec d'autres. Mais c'est aujourd'hui devenu les deux piliers sur lesquels se développent les pays d'Afrique qui veulent aller de l'avant et avoir une politique d'industrialisation.
Et aussi la question de dessalement de l'eau de mer.
Oui,
ces régions-là désertiques souffrent justement de ce point de...
Une conférence sur l'eau, justement. Pour montrer que, parce qu'on dit que l'eau, ça va être la prochaine guerre, ce sera pas celle du pétrole, mais de l'eau. Alors que de l'eau, il y en a partout. Aujourd'hui, il existe des technologies, justement, grâce au spatial. On avait Alain Gachet, qui était présent à cette conférence et qui est un de ceux qui arrivent à détecter l'eau par des technologies satellitaires. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'eau partout. Non seulement ça. Et après, en effet, grâce aux centrales nucléaires, on peut aujourd'hui dessaler de l'eau de mer. Je crois que aujourd'hui, il y a 2% de l'eau consommée dans le monde qui est déjà issue du dessalement par la technologie nucléaire. Et justement, dans des régions où il y a moins d'eau que d'autres, cette technologie va permettre de fournir une eau justement en capacité suffisante pour l'ensemble de la population.
Et même pour l'agriculture et l'industrie.
Et même pour l'agriculture, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que la technologie permet de se libérer, si vous voulez, de cette idée que les ressources seraient limitées. Toute l'idée aujourd'hui qui est développée par les écologistes, c'est que les ressources seraient limitées et donc il y aurait une sorte de gâteau pour lequel il faudrait se battre et donc la guerre serait inévitable. Or, quand on utilise les technologies, là, dans le cadre du nucléaire, par exemple, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. La Chine, l'Inde, tous ces pays travaillent là-dessus, des centrales au thorium, des centrales à sel fondu. Il y a plein de nouvelles technologies qui vont permettre d'avoir des ressources, si vous voulez, en énergie, en capacité énergétique, qui vont être quasiment infinies, en fait, pour le développement de l'industrie du monde entier. Aujourd'hui, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère industrielle et les découvertes qui sont faites aujourd'hui dans le domaine du nucléaire, on les utilise dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des pays, même africains, qui l'utilisent pour doubler leur rendement agricole grâce à des isotopes issus du nucléaire. On l'utilise dans la médecine également pour tout ce qui est la médecine nucléaire, donc les isotopes qui sont utilisés. Donc on a déjà cet premier aspect qui est extrêmement pratique et en effet après il y a l'aspect extra-atmosphérique si on peut dire, où justement c'est pareil, on est en train de découvrir énormément de choses et qui vont permettre justement de régler les problèmes. C'est pour ça que ces centres de recherche, non seulement la Russie propose, si vous voulez, la construction de centrales nucléaires, donc ça c'est l'aspect pragmatique, mais également des centres de recherche dans lesquels on va développer des technologies pour mieux connaître, si vous voulez, comment l'appliquer à l'agriculture, comment l'appliquer à la médecine, comment l'appliquer à tous les domaines, parce que le nucléaire, on se rend compte aujourd'hui, c'est une science, c'est une technologie qui va impacter l'ensemble de la vie des êtres humains sur cette planète. Et c'est pas nouveau. Je voudrais citer Indira Gandhi. Vous voyez, Indira Gandhi qui disait déjà il y a plus de 40 ans, notre technologie, notamment nucléaire, est vouée au développement, à libérer les populations de la faim et à leur donner l'essentiel, la dignité avec elle, nous reverdirons les déserts. Donc, vous voyez que c'est un combat qui est mené depuis longtemps.
D'accord. Donc, un dernier mot, juste pour conclure avec cette première partie de notre émission, sur le changement du paradigme géopolitique actuellement. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, beaucoup de pays africains auront le courage et même l'assurance d'aller dans cette voie-là, de développer la technologie nucléaire?
D'abord, sur la situation internationale, si vous voulez, il ne faut pas non plus se voiler la face. On est aujourd'hui face à un danger de guerre mondiale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez encore hier, avant-hier, Rob Howard, le secrétaire de l'OTAN, qui appelait les Européens à faire des réserves d'eau et d'alimentation parce qu'il fallait se préparer à la guerre mondiale, sur le sol européen et dans le monde. Donc on a une faction aujourd'hui de cet impérialisme occidental qui, justement, pour contrecarrer le développement du Sud global, qui a toujours été notre précaré, on va dire, nos colonies. Aujourd'hui, vous avez ces gens-là qui sont prêts à semer le chaos sur la planète pour empêcher le développement des pays du Sud. Donc, évidemment, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui résistent et qui essaye de faire le mieux. On le voit, on l'a vu, j'ai cité le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui se sont libérés de cet impérialisme. Mais le combat est loin d'être terminé. Donc il y a un vrai danger de guerre mondiale. On voit la situation à Gaza, vous savez. On voit ce qui se passe avec le Yémen. On voit que ça peut très vite, avec le Liban, voire même avec l'Iran, qui a d'ailleurs rejoint les BRICS, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs. On voit que tous ces pays-là qui sont entrés ou qui veulent aller vers ce nouveau paradigme de développement sont menacés, sont parfois même bombardés, et il y a un chaos potentiel qui peut se déclencher à tout moment. Et donc ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas simplement le Sud global qui a décidé de se développer. Il y a une opposition à ça, et cette opposition peut faire échouer justement cette dynamique du nouveau paradigme de développement. Et ça, c'est à prendre en considération quand on entend les Ursula von der Leyen, les gens de l'OTAN, les gens autour de Biden dire qu'il faut se préparer à cette guerre mondiale et qu'elle est inévitable.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Sébastien Perimoni, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Sébastien Perimoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Sébastien Perimoni, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
Merci à vous.
Bien. Alors, par rapport à tous les projets dont on a parlé dans la première partie, pour réussir justement de tels projets, il ne faut pas les penser comme des choses en soi, mais comme des locomotives de développement à même de produire un effet d'entraînement à beaucoup de secteurs de l'économie. C'est ce que disent beaucoup d'experts qui essayent d'attirer l'attention des dirigeants africains par rapport justement à ces projets-là qui te coûtent cher et qu'il faudrait absolument utiliser comme des leviers d'entraînement. Alors, l'exemple du projet Apollo lancé par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961 pour aller sur la Lune a coûté au Trésor américain 20 milliards de dollars. Cependant, chaque dollar investi dans ce projet a eu un retour sur investissement de moins 9 dollars sur l'économie américaine. Et en effet, des dizaines de milliers d'entreprises de haute technologie ont été créées dans son sillage, faisant travailler des dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés qui ont développé par la suite d'autres applications en médecine, en communication, comme le téléphone portable et en informatique. Alors, Sébastien Perimoni, la majorité des pays africains sont riches en matières premières, mais très pauvres en termes d'infrastructures, d'industrie et d'agriculture. En tant que fin connaisseur des problèmes justement de développement en Afrique, comment voyez-vous il est nécessaire de faire des projets nucléaires, une sorte de projet Apollo pour tous les pays qui envisagent de s'engager dans cette aventure?
Oui, vous l'avez dit, hein, il faut pas voir le projet des centrales nucléaires en soi. C'est vraiment une question, je dirais presque épistémologique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans avec Lyndon LaRouche. Donc Lyndon LaRouche, qui était un économiste américain, qui a fait de nombreuses découvertes, qui était d'ailleurs un grand défenseur de la conception de Vernadsky, hein, c'est-à-dire ce développement harmonieux entre ce que Poutine, d'ailleurs lui-même, a appelé la technosphère et la biosphère, c'est-à-dire le monde, la nature et l'homme, justement par rapport à la capacité de créativité des êtres humains. Et c'est cette créativité, en fait, qui est au cœur de l'économie physique. Aujourd'hui, si vous écoutez la plupart des économistes occidentaux, on va vous parler de chiffres, de bilan comptable, de finances, etc. Mais on ne voit pas cette question de la créativité qui est au cœur de l'économie physique. Le projet Apollo en est un exemple absolument merveilleux. À l'époque, Kennedy dit « on va sur la Lune ». On ne sait pas comment aller sur la Lune à l'époque. Donc il faut développer la créativité. créativité, de développer des équipes pour travailler sur ces projets-là. Et vous l'avez rappelé, ça a rapporté 10 fois plus que ce que ça a coûté, et 20 milliards quand on compare aux 1000 milliards aujourd'hui du budget militaire américain, quand on compare aux centaines de milliards qui sont donnés à l'Ukraine pour se faire harakiri, si vous voulez, dans cette guerre contre pour le compte de l'OTAN, on voit bien que c'est pas des sommes astronomiques. Et Lyndon LaRouche, qu'il a toujours développé, justement, c'est que c'est cette créativité humaine, en fait, qui est au cœur, justement, du développement de la société humaine. Et quand il avait déjà proposé un plan de développement de l'Afrique dans les années 70, en 1975, et justement, il avait fait la même comparaison que moi au début, il avait dit « l'Afrique a besoin de 3000 centrales nucléaires ». Bon, quand vous dites ça aujourd'hui à un occidental, il s'arrache les cheveux, hein, parce que dire que l'Afrique a besoin de 3000 centrales nucléaires, ça paraît beaucoup. Or, si on compare avec la France, c'est à peu près le même niveau. Donc voilà, il y a cette idée d'avancer dans les projets nucléaires pour l'Afrique. C'est en effet une sorte de projet Apollo, ce qu'on pourrait dire un plan Marshall ou un New Deal, si vous voulez, qui va permettre justement à l'Afrique de se développer. Et je vous rappelle, hein, la moitié de l'Afrique n'a pas accès à l'électricité, donc c'est la priorité absolue, déjà, d'avoir cette énergie qui est pas chère, qui est durable, qui ne pollue pas, pour permettre déjà à la population, à minimum, comme disait Indira Gandhi, d'avoir la dignité de pouvoir avoir accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc ça, c'est cette aventure dans laquelle s'est engagée l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment inarrêtable. On le voit avec les pays même d'Afrique de l'Ouest, on le voit avec l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, le Nigeria. Enfin, tous ces pays sont engagés dans cette révolution industrielle. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous, on doit soutenir pour justement permettre à l'Afrique de se développer. On rentre dans cette période de renaissance scientifique qui a été initiée justement par ce nouveau paradigme qui est mis en place depuis quelques années. Et d'ailleurs, faut saluer d'ailleurs les BRICS en particulier et les BRICS plus maintenant, parce que c'est un facteur d'accélération extrêmement important de ce nouveau paradigme qui est mis en place, et en particulier saluer le travail de la nouvelle banque de développement, hein, qui est dirigée par Dilma Rousseff, qui justement aujourd'hui finance ce type de projet d'industrialisation et de développement qui va ouvrir, si vous voulez, une ère de renaissance, hein, pour l'ensemble du continent africain, comme on l'a connu nous ici avec les révolutions industrielles.
D'accord. Alors, un partenariat avec la Russie, la Chine et les pays africains est tout à fait souhaitable, nécessaire et possible, comme vous venez de le mentionner, pour faire partager les frais de réalisation de ce genre de projet, mais également les bénéfices en eau potable, en électricité, en technologie et en industrie. Alors, comment voyez-vous ce partenariat et comment les pays africains pourraient profiter au maximum de cette main tendue réaffirmé par le président Poutine lors du sommet Russie-Afrique en 2023 à Saint-Pétersbourg?
C'est plus qu'une main tendue aux pays africains. C'est des programmes de partenariat dans absolument tous les domaines. Vous l'avez cité, l'eau, l'électricité, l'agriculture, l'industrie, la médecine, le nucléaire, bien entendu, on en a parlé longuement. Donc c'est un vrai partenariat de développement économique mutuel qui s'est mis en place et qui est beaucoup plus qu'une main tendue. Si vous voulez, c'est un développement justement qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir et d'accéder à des niveaux de vie qu'elle n'a jamais eu jusqu'à présent. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine, il y a 40 ans, les trois quarts de la population sont pauvres, n'ont ni accès à l'eau, ni accès à l'électricité. Aujourd'hui, la Chine, c'est 25 000 km de chemin de fer à grande vitesse, c'est un robot sur la Lune, sur Mars, c'est l'élimination de l'extrême pauvreté, c'est le nucléaire du futur, enfin, voilà, et ça, c'est l'avenir de l'Afrique. L'Afrique va connaître le même développement qu'a connu la Chine ces 30 dernières années, et ça, c'est justement ce qui est en train de se passer grâce au soutien, grâce à l'apport, à la contribution de la Russie, qui joue un rôle non négligeable avec la Chine, même l'Inde, maintenant le Japon, la Turquie, tous ces pays en fait sont en train de se réorienter vers le développement de l'Afrique, qui est devenu un petit peu le nouvel Eldorado et bien sûr le continent du futur.
D'accord. Alors Sébastien Perrimoni, avec la Russie, il est également possible de mettre en place des centrales flottantes. C'est très important sur le littoral, ayant la possibilité de résister au séisme tout en y installant normalement, et ce qui est nécessaire, des stations d'alerte avancée au tsunami ou au tremblement de terre, comme en Méditerranée par exemple, pour les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. C'est une région qui est extrêmement sismique, mais La Russie a là un prototype qui peut s'adapter justement à la nécessité de ces pays. Alors, pensez-vous que ce genre de centrale pourrait intéresser certains pays africains qui ont des côtes au large de mer ou des océans?
Ah ben ça les intéresse déjà beaucoup.
D'accord.
Vous savez, quand la Russie a présenté la première centrale nucléaire flottante, hein, l'académique Lomonosov, si je me rappelle son nom,
Lomonosov,
ça a suscité un intérêt extrêmement grand dans le monde entier. Et c'est d'ailleurs depuis que ce prototype a été présenté, que s'est relancé même à l'échelle internationale, toute une politique de développement des mini-centrales nucléaires, ce qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactor. Donc, la Russie a redynamisé ce secteur-là. Même la France, aujourd'hui, a un programme ambitieux pour les SMR. Les États-Unis ont relancé également massivement leur programme de développement des mini-centrales. Donc, on sait que, de toute façon, il suffit de regarder le continent africain pour voir que, voilà, il est entre la plupart des pays sont le long des côtes. Donc, évidemment, que ce type de barge nucléaire que propose la Russie, avec tous ses avantages que vous avez mentionnés, aujourd'hui, il y a un intérêt très, très grand pour le développer, et c'est ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que avec Jacques Cheminade, on avait proposé cela déjà dans sa campagne présidentielle en France de 1995, parce que c'était d'une évidence, si vous voulez, on sait faire des mini-centrales nucléaires dans l'eau. Vous savez, on a les sous-marins nucléaires, hein, ça existe depuis les années 70.
Absolument.
Donc c'est des technologies qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été mises au service du développement.
Du civil.
Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe avec la dynamique des BRICS, la Russie, l'agenda 2030, Russie-Afrique, etc., c'est que les technologies qu'on a utilisées pour la guerre au XXe siècle, pour la guerre froide, aujourd'hui, ces technologies sont utilisées pour le développement des pays du Sud et apportent un vrai développement, justement, contrairement à ce qui a été fait ces 70 dernières années.
Avec les BRICS plus, la géopolitique mondiale est en train de changer complètement vers un monde multipolaire, promouvant des politiques d'entraide et de co-développement, à l'instar du projet chinois de la route de la soie, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, ce qui tranche totalement avec les politiques d'asservissement occidental vendues aux Africains sous le label de l'aide au développement. Donc une aide au développement qui, depuis des années, n'a fait qu'accroître les problèmes de l'Afrique, défaillance de beaucoup d'États, corruption structurelle, famine, guerre civile et ethnique, ce qui a fait que cette aide au développement s'est au fur et à mesure transformée en aide militaire, justement, pour enrichir les complexes militaro-industriels occidentaux, tout en maintenant justement les pays africains dans un état de guerre et d'instabilité.
Quand on regarde finalement l'aide au développement, si on regarde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut voir que les pays occidentaux ont soi-disant donné plusieurs centaines de milliards aux pays africains pour se développer. Or, si on regarde le cas de la France, par exemple, nous avons une agence française de développement qui a donné des centaines de milliards aux pays africains. Et si on regarde tous les pays de la zone CFA, qui est un autre problème, cette curatelle financière actuellement qui est encore imposée sur les pays d'Afrique occidentale, si vous voulez, cette curatelle du franc CFA et cette aide au développement a fait que tous ces pays sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète, selon le rapport de l'indice de développement de l'ONU. Donc on voit bien que cette aide au développement n'a jamais servi à développer un seul pays, et je le rappelle, ils n'ont ni chemin de fer, ni réseau d'eau potable, ni d'électricité encore aujourd'hui. Donc voilà, et en plus de ça, la corruption. Un rapport a été publié dernièrement qui explique que chaque année, c'est plus de 1500 milliards de dollars qui fuit l'Afrique à travers l'évasion fiscale et la corruption. Donc vous imaginez, 1500 milliards sur 10 ans, tout ce qu'on aurait pu construire justement comme infrastructure. Et moi j'avais fait un calcul intéressant sur la ligne ferroviaire, vous savez, entre Nairobi et Mombasa, qui a été développée par la Chine, qui a permis au pays de gagner 2 points de PIB, qui a créé des dizaines de milliers d'emplois, et qui n'a coûté que 5 milliards en fait. Donc si vous comparez ces 5 milliards aux 1500 milliards qui sont perdus tous les 10 ans, vous vous rendez compte qu'il y a longtemps qu'on aurait pu relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. On aurait pu tout à fait faire ça. Mais ce n'est pas le choix du système qui a été choisi. Donc aujourd'hui, on rentre dans cette période-là où l'agenda 2063, les BRICS, je sais que l'Union Eurasiatique également aujourd'hui signe des partenariats avec l'Afrique. Donc c'est toute cette dynamique de coopération internationale aujourd'hui qui va permettre cette renaissance. Parce que en effet, quand on ne crée pas, on meurt. Vous savez, c'est toute l'histoire. Prenons d'un point de vue énergétique, tout simplement. Si une civilisation se chauffe au bois, eh ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de forêt et la situation meurt. Donc, on trouve une nouvelle technologie, le charbon. Donc, on peut faire plus de chauffage avec moins de matières premières, puis le nucléaire, et ainsi de suite. Et chaque fois, on progresse grâce à la créativité humaine qui permet d'accueillir plus de gens sur la planète et d'avoir des niveaux de vie plus élevés et aussi des niveaux de qualification plus élevés. Parce qu'un travailleur dans une mine de charbon, comme il y en a encore beaucoup des mines de matières premières en Afrique, c'est pas pareil qu'un ingénieur dans le domaine du nucléaire. C'est pas le même travail. C'est un travail beaucoup plus moins fatigant. Donc ce progrès, cette créativité qui est au cœur du processus de développement de l'humanité, elle est fondamentale. Parce que si on ne crée pas, si on ne fait pas de nouvelles découvertes de principes physiques, eh ben, la société a tendance en effet à épuiser ses ressources. Et à ce moment-là, on rentre dans un monde malthusien, de guerre de tous contre tous pour les ressources. Et justement, la créativité, la découverte, les nouveaux principes physiques permettent sans cesse à l'humanité de faire des sauts qualitatifs et développer des plateformes de développement encore plus importantes. Et aujourd'hui, pour l'Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, on a toutes les technologies possibles pour éradiquer l'extrême pauvreté, donner accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, dans les 20 prochaines années. Et c'est ce qui a été commencé, justement, dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau paradigme que vous avez mentionné, de développement mutuel, de co-développement. Mais malheureusement, il faut le dire, qui n'est pas avec l'Occident, qui reste dans sa doctrine malthusienne et impérialiste, mais avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS, dans ce nouveau paradigme de développement mutuel.
Bien. Alors, après avoir fait tout un topo donc, sur la question, j'aimerais bien soulever deux problèmes pour finir avec cette émission. Alors, le premier, Sébastien Perrimoni, c'est que il y a tout le temps des campagnes médiatiques savamment orchestrées contre le développement du technologie nucléaire civile, je veux dire, en soulevant deux questions. La première, il pointe le développement de technologie nucléaire, notamment pour les pays du Sud, en disant qu'il y a un danger de prolifération d'armes nucléaires. Donc, il vaut mieux éviter ne pas donner ce genre de technologies qui peuvent dégénérer vers d'autres utilisations qui ne sont pas les objectifs primaires. Donc, pour ça, on cite par exemple la Corée du Nord, on cite l'Iran, qu'on accuse tout le temps de vouloir développer des armes nucléaires, et d'autres pays. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas si on attaque l'Égypte sur ce point-là, pour dire qu'elle pourrait développer l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'Israël est doté d'armes nucléaires. Alors, que pensez-vous par rapport à ça ? Qu'avez-vous à dire par rapport à ça ?
C'est une logique impérialiste, évidemment. Si vous avez la technologie pour vous et que vous voulez contrôler les trois quarts de la planète, il ne faut pas que ces pays aient accès à cette technologie. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette politique de sous-développement, voire de non-développement. Parce que avec le non-développement, le sous-développement, les sociétés ne peuvent pas se défendre. Donc évidemment, aujourd'hui, ces technologies ont été accaparés, on va dire, par cette empire occidental qui n'a jamais voulu justement les transférer, comme fait la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu transférer ces technologies et les connaissances à d'autres pays du Sud pour pouvoir les contrôler. Donc aujourd'hui, c'est en train de changer. Vous savez, tous les pays qu'on a mentionnés, l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria, l'Égypte et tout ça, qui se sont lancés justement dans un programme nucléaire avec Rosatom, avec la Russie, il faut bien spécifier que c'est un programme de nucléaire civil. À aucun moment aujourd'hui il n'est discuté dans ces pays-là d'avoir l'arme nucléaire. En tout cas, je parle pour les pays africains, c'est des programmes de nucléaire civil. Donc à partir de là, il y a des protocoles qui sont validés par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et moi, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait un contrôle des armes nucléaires à l'échelle internationale, c'est normal. On peut pas avoir tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, dans le cas de l'Afrique, c'est des partenariats dans le cadre du domaine civil et il n'est pas question d'avoir la prolifération des armes nucléaires sur le continent.
Par rapport justement à toute l'idéologie verte, qui dit, OK, le nucléaire ne pollue pas, c'est vrai, mais C'est quand même d'ailleurs bizarre que ce soit le nucléaire qui est la première cible des mouvements écologistes, parce qu'actuellement, par exemple, on voit en Allemagne, il y a des centrales à charbon qui rouvrent à tout va, et pas un seul ver allemand ne bouge le petit doigt pour dire que ça pollue. Mais en revanche, on attaque le nucléaire en France, on veut pas que le nucléaire se développe, et on voudrait pas aussi qu'il se développe en Afrique. Alors, pourquoi cette disparité dans cette question-là? Et est-ce que ce n'est pas une espèce de stratagème qu'on utilise pour dissuader les pays, justement, pour ne pas aller dans cette voie?
Bien sûr. C'est ce qu'a dénoncé Vladimir Poutine dans son discours que j'ai mentionné. C'est une idéologie malthusienne, c'est-à-dire que cette technologie veut réduire la population mondiale. Et pour réduire la population mondiale, il n'y a pas 150 solutions. C'est soit la guerre, soit le non-développement. Et si on commence à donner aux pays ces technologies, ben forcément qu'ils vont se développer. Donc voilà, donc c'est toute cette idéologie qui est utilisée. Vous savez, depuis le Club de Rome, vous savez, ça remonte à Henri Kissinger, paix à son âme, qui avait écrit un rapport dans les années 70 qui s'appelait « Halte à la croissance », en disant « si les pays du Sud se développent, ils vont utiliser leurs matières premières et nous, on n'y aura plus accès. » Donc il faut empêcher les pays du Sud d'avoir accès aux technologies modernes. Donc ça a été une politique officiellement implémentée par le Club de Rome, Henri Kissinger et tous les réseaux néoconservateurs anglais en particulier, pour justement ne pas donner accès à la technologie aux pays du Sud pour qu'ils se développent. Donc c'est une politique de génocide. Si on regarde le nombre de morts qui ont eu lieu ces derniers temps à cause du non-développement, c'est une politique ouvertement de génocide. Donc c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que les pays du Sud résistent. Il y a eu la COP28 à Dubaï. La plupart des pays du Sud ont dit maintenant c'est terminé cette propagande malthusienne. Nous, on va développer nos énergies fossiles, on va développer le nucléaire, on va développer nos industries, parce que justement, on ne veut plus croire à ces théories, si vous voulez, malthusiennes.
Alors, une dernière question, Sébastien Perrimoni, un petit peu philosophique. Alors, ce refus de donner le feu nucléaire aux pays du Sud, notamment aux pays africains, aux pays pauvres, le pays africain, est-ce que ce n'est pas un peu le refus de donner le feu, dans ce que Échille a développé dans sa trilogie, à Prométhée? Et donc, et je rajouterai à ça l'idéologie verte. Est-ce qu'il n'y a pas un principe justement de pessimisme déjà pensé sur la nature humaine et voulu être diffusé au sein de la jeunesse en particulier?
Et bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en Occident, par exemple, plus de 50% des jeunes qui sont éco-anxieux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants, qu'ils ne veulent plus manger de viande, qu'ils ne veulent plus rien, parce qu'on va détruire la planète. Il y a dans les écoles maternelles dans nos pays, aujourd'hui, dès la maternelle, on chante « elle brûle ma planète, l'homme est mauvais ». Donc il y a toute cette culture du pessimisme qui s'oppose justement à la culture prométhéenne. Et je suis très, très content que vous en parliez, parce que Échille, dans le Prométhée enchaîné, si les gens peuvent les lire, c'est un combat contre une oligarchie qui empêche l'homme d'accéder à la créativité et à son développement pour les maintenir justement en état de servage et d'esclavage. Et Prométhée, qui s'oppose aux dieux, décide de donner la technologie aux hommes, le feu, mais pas simplement le feu, la connaissance des cycles astronomiques, etc. Il donne tout un ensemble de connaissances à l'homme pour développer sa créativité et justement se libérer d'une oligarchie, en fait, qui est une oligarchie qui vit par l'esclavage. Et cette belle métaphore, en fait, de Échille dans Prométhée enchaîné, c'est exactement le combat qui est mené aujourd'hui dans le monde. C'est exactement ça. Et la version moderne, et c'est ce que M. Larouche a sans arrêt montré dans différents écrits, c'est d'étudier Vladimir Vernadsky. Vladimir Vernadsky, aujourd'hui, est un des penseurs, justement, qui a développé la notion que le pensant, c'est-à-dire la pensée humaine, la créativité humaine, va devenir la force géologique la plus importante de l'univers. C'est-à-dire que certes, c'est pas une force matérielle, le pensant n'est pas matériel, mais le pensant, les idées, la créativité aujourd'hui, va devenir la force géologique la plus importante de transformation de notre univers. Ça veut dire quoi? Évidemment, ça veut dire une responsabilité très importante pour l'homme. On peut utiliser le nucléaire pour faire des armes et bombarder tout le monde, mais aussi on peut l'utiliser, comme le propose aujourd'hui la Russie ou la Chine, pour développer les pays du Sud et permettre le développement de la noosphère, comme dirait Vernadsky, du pensant sur les vivants de manière harmonieuse avec la nature, contrairement à ce que pensent les écologistes qui ne veulent ni le développement de la nature, ni le développement des hommes.
Merci, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Sébastien Pérémoni, je vous remercie pour tous ces éclairages.
Merci à vous.
J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous.
C'était Sébastien Pérémoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.